Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour écouter, échanger avec Benjamin. Avant qu'on démarre, je voudrais juste vous rappeler que demain, il y a la rencontre avec Michel Barnier. C'est même endroit, même heure. Donc demain à 11h et non pas le vendredi comme habituellement. Il nous parlera du Brexit puisqu'il a écrit tout un livre là-dessus et qu'il connaît le sujet sur le bout des doigts. Et peut-être même qu'il parlera des présidentielles. On ne sait pas, on verra. Ça, c'est mystère et boule de gomme. Bon, en attendant, je vous présente Benjamin. Il y en a beaucoup qui le connaissent déjà et d'autres pas encore, mais ça ne saurait tarder. Benjamin, c'est quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie à l'Île-Dieu. À 31 ans seulement, il est déjà devenu quelqu'un très célèbre et il a été l'une des révélations du Vendée Globe 2020-2021 puisqu'il a parcouru en 81 jours, un peu plus de 81 jours, il a parcouru quand même 45 000 kilomètres. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais 45 000 kilomètres en solitaire, c'est pas mal. Il est arrivé 9e, donc c'est une très très belle performance avec un bateau... Avec un bateau, je précise, qui date de 2007. Hein, donc, ce n'est pas les dernières générations de bateaux, sans foil pour ceux qui s'y entendent en voile. Ils savent ce que ça peut vouloir dire. Plus récemment, il a aussi participé à la Ocean Race Europe, qu'il a remporté avec un équipage européen sur un bateau allemand. Et dans l'équipe, Benjamin, puisque c'était une course en équipage, Benjamin était le stratège du groupe. Hein, donc, encore une fois, pas mal. Hein. Et je n'ai pas précisé, c'était encore un bateau qui était sans foil, hein, je crois.
Cette fois, c'était un avantage. Cette fois-ci, c'était un avantage.
Bon, on va pas le dire alors. Et il nous revient directement de la Rolex Fastnet où il a fait 7e avec Damien Seguin sur le bateau de Damien Seguin, groupe Apicil. Très jolie performance puisque là, pour le coup, c'était le plus vieux bateau de la flotte. Voilà, comme quoi les vieux bateaux, hein, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein, c'est ce qu'on dit. Benjamin. Non, j'exagère un peu, il va nous expliquer que c'est pas forcément ça. Mais Benjamin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé là? Parce que entre les premiers pas sur le bateau du grand-père quand il était haut comme trois pommes à genoux et les premiers tours de l'île quand il était un petit peu plus âgé, les choses ont bien changé.
Ouais, mais on peut se tutoyer, hein, Viviane, comme d'habitude. Oui. Bonjour à tous. Je suis très content de vous voir tous ici. C'est assez incroyable. Je suis assez ému de vous voir tous là parce que j'étais au collège ici. Je fais plein de conneries dans ce prêt. Et j'ai fait pas mal de courses d'orientation dans ce bois. Donc, c'est vrai que je connais bien. Ici, c'était le petit trajet qu'on utilisait pour aller jusqu'à la salle Omnisport. Et pour le coup, j'étais souvent le premier à la salle de sport. Donc voilà, je suis très content de vous avoir ici. Après, tu parlais des premiers tours de l'île, et là j'ai revu il y a tout à l'heure Jérôme Gianetti avec qui on avait fait le tour de l'île, la German Cup, une des premières German Cup, je crois, sur l'Aquila avec mon père il y a vraiment longtemps, et on avait, c'était notre première victoire, je crois. Et c'était voilà, j'étais trop content de le voir. Je sais pas où il est Jérôme, mais trop content. Il m'a appris plein de trucs. Et oui, c'est vrai que je me rappelle pas forcément très bien ça fonctionne. Je me rappelle pas forcément très bien des tours de bateau sur le bateau du grand-père, mais j'étais vraiment tout petit. Mais c'est vrai que moi je suis originaire du nord de la France, donc j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 8 ans et quand mes parents ont déménagé sur l'île, j'ai découvert un peu plus la mer. C'est vrai que j'étais plus orienté voiture, moto, tout ça quand j'étais petit. Et du coup, j'ai découvert la mer en arrivant à l'Île-Dieu, même si déjà on venait souvent en vacances les étés ici. Et donc j'ai pu tirer mes premiers bords à l'école de voile, plage de la Pipe. Et faire mes premiers stages en été. Et après, c'est vrai que j'ai, quand on est arrivé à habiter ici, j'ai vite intégré le club des plaisanciers. J'ai revu pas mal de têtes là, du club ici. Donc, ils m'ont emmené faire mes premiers bords sur l'eau en régate, sur des bateaux habitables. Donc, voilà, et ça permettait d'avoir une dynamique un peu toute l'année. Je me rappelle, il y avait une super ambiance. Et c'était chouette de pouvoir aller naviguer les samedis. Il y avait le Gypsy 80, je me rappelle très bien. C'était vraiment chouette. On allait faire des petites régates à Saint-Gilles, revenir ici. Et après, j'ai eu l'opportunité, j'avais besoin aussi d'aller intégrer une école de sport. Et malheureusement, à l'Indieu, c'était un manque, c'est qu'il n'y a pas d'école de sport donc, pour les jeunes, pour pouvoir pratiquer la voile sur le circuit fédéral, on va dire, quoi. Et donc, du coup, je suis allé à Fromentine. Et c'est là qu'en fait j'ai pu intégrer l'école de sport de Fromentine en catamaran de sport. Et donc c'était assez marrant parce que du coup je prenais le bateau le mercredi matin, j'arrivais là-bas, je sautais dans le bateau du coach qui me déposait sur mon catamaran, je faisais les entraînements, il me redéposait au bateau le soir. Donc je faisais les allers-retours comme ça la journée pour aller m'entraîner. Et le week-end souvent j'étais parti en régate du coup voilà, droite à gauche un peu partout au début en Vendée, sur les petites départementales, puis après en région, puis après nationale, puis après internationale. Donc voilà, plutôt sur des supports donc des catas de sport qui étaient plutôt voués. Le circuit fédéral nous formate pour qu'après on aille faire de l'olympisme, donc plutôt voilà, se préparer pour les Jeux, donc sur des petits dériveurs. Donc il y a plein de petits circuits. Et c'est vrai qu'après, j'ai pu intégrer au Sable d'Olonne la section sportive universitaire, enfin pas universitaire, mais du coup du lycée, et après la section sportive universitaire à Nantes. Et en fait, après, ils ont retiré le catamaran des JO. Donc c'est vrai que. Pour le coup, à cette époque-là, on était bien placés dans les équipes, en équipe de France jeune. On avait gagné un championnat du monde avec mon équipière. Et donc, du coup, voilà, là, on savait plus trop quoi faire. Et après, finalement, l'université, j'ai découvert l'habitable, etc. J'ai eu l'occasion de passer un peu de temps après à la Baule, dans une boîte dans laquelle j'ai pu travailler, toujours dans la conception de catamarans de sport, donc toujours dans le bateau. Et en 2015, je me suis inscrit un peu par hasard à une sélection de course au large. Pour la petite anecdote, j'avais fait un Tour de France à la voile et en équipage donc. Et je crois que j'avais fait mes premières étapes de nuit, etc. Et j'avais dit au responsable du projet, qui était Corentin Duguet, moi la course au large, enfin passer des nuits en mer à régler la grand voile, ça m'intéresse pas. Je préfère faire les parcours autour de trois bouées, c'est beaucoup plus marrant. Et donc voilà, et quelques années plus tard, je me retrouve du coup sur la solitaire du Figaro, tout seul sur mon bateau, à passer des nuits en mer. Et donc ça, c'était assez marrant. Et du coup, quand je me suis inscrit à cette sélection à Team Vendée Formation à Saint-Gilles, finalement, je me suis retrouvé à être choisi pour pouvoir représenter l'association sur la solitaire du Figaro. Et là, c'était le début d'un nouvel amour pour moi. C'était la course au large, l'attirance vers le large, justement. Enfin, en gros, tout ce que j'avais mis un peu de côté, finalement, ça m'a un peu rattrapé. Et je me suis dit, c'est chouette de pouvoir avoir le côté compétition, le côté aventure, le côté découverte de soi-même. Pouvoir partir au large, c'est quand même une chance incroyable. Et donc, depuis 2015, je me suis mis à 200% dans ces projets-là pour pouvoir aller vers le large, mais toujours en compétition quand même, parce que c'est quand même ce qui me motive avant tout.
Alors bon, il a beaucoup, beaucoup résumé son parcours, c'est clair. Il s'en est passé des choses et des compétitions. Mais Benjamin n'est pas qu'un skipper qui navigue pour la compétition. C'est aussi un homme engagé. Tu soutiens la Water Family et tu as même emmené un passager assez étrange que vous avez appelé Flaggy. Alors, tu peux nous en dire un peu plus, parce qu'un passager à bord d'un bateau en solitaire, c'est un peu étrange.
En effet, ça fait depuis 2016 maintenant que je soutiens l'association Water Family. Donc, je suis ambassadeur de l'asso. Il y a plein d'ambassadeurs. L'association, avant de s'appeler Water Family, elle s'appelait Du Flocon à la Vague. En fait, c'est simplement représenter le flocon, la neige qui fond, qui va dans les rivières et qui arrive jusqu'à la mer. Et après, qui retourne dans les montagnes au final, parce qu'après, l'eau s'évapore, elle va dans les nuages et elle revient à la montagne. Et donc, en fait, c'est tout un cycle de l'eau. Et en fait, du coup, avec cette association, son objectif, c'est d'aller intervenir dans les écoles, dans les classes, maintenant aussi dans les entreprises, pour aller sensibiliser à la protection de l'eau, parce que l'eau, c'est notre santé. En fait, sans eau, on ne vit pas. Et donc voilà. Et donc le rôle de l'association, c'est vraiment d'aller dire, bah voilà, l'eau, il faut la respecter. Donc la respecter, ça passe par essayer de la consommer moins, parce que c'est pas une ressource éternelle. Mais ça passe aussi par le côté, on la pollue moins. C'est-à-dire que si on la pollue à la montagne, en fait, c'est la même eau qu'on aura à la mer, quoi. Et en fait, c'est ça qu'il faut mettre un peu dans la tête des enfants, c'est vraiment leur faire comprendre qu'en fait, l'eau qu'on va respirer à la montagne un jour, et ben un jour elle arrivera à la mer. Et donc voilà, tout ça, c'est tout un cycle. Et donc j'avais trouvé le message assez chouette, et c'est une association qui a été fondée par des sportifs en plus, donc je me suis assez bien retrouvé dans l'association. À la base, avant que ce soit une association à l'année avec des salariés, qui est maintenant, voilà, qui... Où, il y a une dizaine d'antennes en France, etc. Ben, c'était un événement sportif, en fait. Il s'appelait ça l'Odyssée du flocon à la vague. Et en gros, c'était un lien entre les sportifs de la montagne, les sportifs de la rivière et les sportifs de la mer. Et du coup, ils faisaient tout ce cycle. Et en gros, ils organisaient ça avec les enfants, où ils faisaient des groupes voilà, avec des activités. Et depuis maintenant, c'est devenu une vraie association, avec toujours des ambassadeurs qui vont intervenir dans les écoles, dans les classes, et qui organisent toujours des événements. Donc voilà, et donc ça m'a beaucoup plu, et du coup j'ai rejoint cette association en 2016, et depuis on a créé pas mal de petites aventures autour de la voile. Donc il y avait déjà beaucoup de montagnards, pas mal de riders, voilà, snowboard, ski, il y avait Tony Estanguet en kayak, il y avait pas mal de surfeurs, voilà, il y avait un peu tout, il y avait pas beaucoup de voileux encore, donc j'étais un peu représentant de la voile, donc de celui qui va un peu plus vers le large, quoi. Et donc voilà, et depuis on a mis en place plein d'opérations, notamment sur le Tour de France à la voile. On a organisé des stands de sensibilisation sur chaque ville étape, et après sur les courses comme la Solitaire du Figaro, la Transat Jacques Vabre, etc. On essayait d'avoir des stands de sensibilisation sur chaque épreuve, donc voilà, amener notre petite goutte d'eau aussi à nous. Et puis c'est toujours sympa d'aller rencontrer les enfants, partager notre passion, et en fait l'asso se sert des sportifs pour que les enfants écoutent, en fait. C'est-à-dire qu'on est un peu plus écoutés que les profs, malheureusement. et donc voilà, c'est un peu ça le credo. Flaggy. Et oui, Flaggy, du coup ils ont fait un truc un peu fou, l'asso, c'est que déjà ils sont venus des Alpes et de Biarritz en vélo pendant la période du Vendée Globe, avec un petit flacon, en fait, dans lequel ils avaient enfermé de la glace qui venait de Chamonix. Et donc ils ont ramené ça, et forcément l'eau a fondu et elle est arrivée jusqu'à mon bateau. Et en gros, ils m'ont déposé ce petit flacon qu'on a appelé Flaggy. Et en gros, c'était un peu le fil conducteur de notre projet Vendée Globe, c'est-à-dire que Flaggy m'a accompagné sur le tour du monde, et du coup, Flaggy a permis à des experts de la Water Family d'aller intervenir dans plein d'écoles, dans plein de classes pendant tout le tour du monde. Donc ça faisait, voilà, un petit lien. En fait, une goutte d'eau, normalement, ça met à peu près 1200 ans à faire le tour du monde. Bon, là, Flaggy a été un peu plus rapide. C'est la recordman des gouttes d'eau, 81 jours, mais voilà, l'idée, c'était de pouvoir recréer ce cycle, et donc là, voilà, Flaggy va retrouver son état solide bientôt, cet hiver. On espère aller à Chamonix pouvoir le redéposer.
Alors, tu as aussi une autre corde à ton arc, puisque tu es chef d'entreprise depuis 2016. Donc, Benjamin a créé l'entreprise EOL Performance en 2016, et tu vas nous en dire un petit peu plus. Que fait cette entreprise, et est-ce qu'elle joue un rôle dans ton parcours sportif ?
Oui, bonne question. la base de la création de l'entreprise, c'était pour justement gérer les projets sportifs. Sauf que quand j'ai commencé, j'avais du mal à trouver des financements. Et donc, pour pouvoir réduire le temps des courses, tout simplement, en gros, la Solitaire du Figaro, ça dure un mois. Il y avait deux, trois autres courses. En gros, c'est trois mois dans l'année. Et ben en fait, j'ai créé la société pour pouvoir intervenir, pour pouvoir faire du coaching, pour pouvoir aller intervenir sur des bateaux de course, donc faire de la préparation technique, etc. Histoire de pouvoir gagner ma vie pendant les 9 autres mois qui étaient hors course, et pour pouvoir réduire le budget pour mes partenaires, pour pouvoir faire justement les courses comme la Solitaire du Figaro à cette période-là, parce que c'est vrai que c'était... quand on commence, c'est vraiment pas simple de trouver des financements, etc. Donc c'est... voilà, il faut innover, il faut trouver des solutions, et puis donc voilà, moi j'ai créé la société dans ce but-là à la base, et c'est aussi cette société-là qui a géré mes projets sportifs par la suite. Et après, le projet a un peu évolué, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait qu'on avait quand même pas mal de clients. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais qu'un salarié, c'était le préparateur de mon bateau et qui m'aidait aussi à préparer d'autres bateaux. Et petit à petit, mon frère Marcel m'a rejoint dans la société pour préparer son alternance. Et en gros, il m'a dit, je comprends que tu aimes bien la course et que tu aimes bien les bateaux de course, etc., et que c'est ce qui te motive, mais en fait, on a des compétences qu'on pourrait ouvrir au grand public, quoi, et aux plaisanciers, quoi. Et donc, c'était une analyse marketing plutôt bien faite. Et donc, il m'a rejoint dans la boîte en alternance, et c'est lui qui s'occupait justement de développer la société. Donc, ça a été lui l'acteur plutôt sur ce côté-là. Donc, en fait, on a ouvert nos compétences pour pouvoir préparer des bateaux, on va dire, à des clients plus amateurs que professionnels. Et après, notamment, faire carrément des projets de plaisance. En fait, on s'est spécialisé dans la rénovation et dans le refit de bateaux. L'idée étant de se dire, il y a des bateaux qui sont en train de pourrir sur des parkings et qui sont des bateaux qui pourraient très bien être mis au goût du jour et qui pourraient très bien être aussi performants que des bateaux d'aujourd'hui. Et donc, on a commencé à travailler sur ce projet-là, enfin surtout Marcel. Et petit à petit, on a commencé à avoir du monde qui bosse avec nous, et on arrivait à se scinder un peu en deux moi j'avais besoin de l'équipe technique pour la préparation de mon bateau, mais lui il avait besoin aussi de l'équipe. On est toujours en train de se battre aujourd'hui d'ailleurs là-dessus pour la préparation de mon bateau, et lui pour la préparation pour les clients. Et All Performance aujourd'hui. Une société qui permet de faire de la rénovation, refit. Et dernièrement, on a racheté une société qui était à Port-Bourgenay. Donc maintenant, on est installé, parce qu'en fait, on a toujours fait ça dans les terres, donc c'était assez marrant. On était à La Motte à Chars, on a fait Bretignolles, Gros Breuil, La Motte à Chars, donc c'est des petits bleds au milieu de la Vendée là. Je crois qu'on a signé le rachat de la société juste avant que je parte sur le Vendée Globe, genre la semaine avant. D'ailleurs, normalement, j'étais confiné, faudra pas le dire. Et après, du coup, Marcel et l'équipe, ils ont bossé sur toute la rénovation de la société actuelle, parce que c'est vrai que il y avait pas mal de boulot à refaire, parce que nous, on aime bien que nos ateliers soient propres et que ce soit bien rangé et que l'équipe soit à l'aise. Et donc, ils ont fait un énorme boulot, et quand je suis revenu, tout était prêt à repartir. Donc la société a redémarré en février, quoi. Quand je suis rentré, la société a pu reprendre ses activités. Et donc là, maintenant, on a une partie concession, donc vente de bateaux neufs. On a toujours l'accent sur la partie refit, qui pour nous est la plus importante. Là, d'ailleurs, cette semaine, on sort un bateau de 78, un super Maramute 78 qui a été refait entièrement à neuf. Et avec toutes les dernières options du jour. Et donc, on est assez fiers de pouvoir faire ça, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les bateaux neufs, ils n'arrivent pas à les livrer. Donc, nous, on est assez contents de pouvoir faire ça, et le client a l'air vraiment super content, parce que c'est vrai qu'il aura tout... toutes les options qu'on peut faire maintenant, mais sur juste une coque qui est un peu plus ancienne, quoi. Et vu qu'un bateau, en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à les recycler, c'est quand même aussi pas trop mal pour l'environnement non plus, quoi. Et donc, et puis du coup, aujourd'hui, c'est Marcel qui gère toute cette partie-là. Et donc, on a séparé la société en deux parties, et maintenant, il y a toujours la société qui gère les projets de course et les projets sportifs, parce qu'en fait... En fait, les projets de course, c'est une vraie société qui gère ça derrière. C'est pas une association. C'est une société qui facture des prestations à des partenaires. C'est une SAS lambda. Un montage un peu classique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dans la manière de fonctionner, c'est on achète un bateau. Le bateau, c'est comme si c'était mon tracteur si j'étais agriculteur. Et moi, il faut que j'exploite mon bateau pour pouvoir faire des courses et pour pouvoir gagner ma vie, quoi. Donc, gagner ma vie. Et puis aussi, c'est un projet qui a plusieurs salariés aussi derrière. C'est sûr qu'on n'est pas une grosse boîte, mais économiquement, c'est quand même un peu d'activité, quoi.
Donc, on voit que c'est quand même pas simple tout ça. Alors, justement, tu vas nous expliquer, si tu veux bien, comment tu as monté ce projet Vendée Globe qui ne s'est pas monté en 6 mois, bien évidemment, vous pouvez tous vous en douter, et qui a eu quand même. Vous avez été confronté à pas mal de déboires ou d'incertitudes, d'imprévus, un contexte Covid qui n'a pas été simple. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça ?
Vous avez un peu de temps. Ouais, c'est vrai que c'est jamais simple. Hein. De toute façon, dans la vie, rien n'est toujours jamais simple. Mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement c'est une entreprise. Hein. Je pense que voilà, chaque entrepreneur a ses difficultés, pour tenir sa barque, quoi. Et donc voilà, nous on a eu les nôtres. Il fallait qu'on fasse. On a une période où il fallait tout simplement qu'on survive et voilà, et on a eu la chance de tomber sur les bonnes personnes pour pouvoir arriver jusqu'au Vendée Globe et de voir aussi une équipe très motivée et très motivante pour pouvoir aller au bout. Et donc voilà, je pense que le maître mot, c'est qu'on a été bien entouré. Et oui, après c'est sûr qu'on a eu quelques galères, mais voilà, toujours très soutenu par la famille, les amis, tous les partenaires, etc. Donc on a réussi à se relever à chaque fois, mais c'est vrai que ça commençait pas forcément bien. Enfin, déjà, on s'est mis un petit défi, c'est qu'on allait chercher notre bateau au Japon parce qu'on voulait ce bateau. Donc voilà, ça c'était déjà le premier truc. Alors forcément, nous, on n'y connaissait rien en importation, en gestion de ce genre de structure. C'était un énorme investissement pour nous, déjà, pour commencer, pour une petite boîte comme la nôtre. Donc déjà, rien que de trouver des financements pour aller pouvoir acheter un bateau et expliquer aux banquiers qu'on allait le chercher au Japon, qu'il n'y avait pas de mât et qu'il y avait pas de... qu'il fallait tout refaire... C'était pas forcément simple, mais comme quoi il y a des bons banquiers parce qu'il y en a qui ont quand même cru en nous. et donc voilà, et tout ça en parallèle de se dire on va chercher ce bateau là au Japon 2 ans avant le Vendée Globe, sauf qu'en gros on n'est pas sûr d'être qualifié, s'assurer de pouvoir être qualifié, de pouvoir faire tous les milles nécessaires pour le Vendée Globe, de pouvoir être dans les temps, etc. Donc c'était un peu le parcours du combattant. Mais là, toujours, on a des personnes qui ont cru en nous, qui nous ont soutenus dans une période où justement, c'était pas simple de se dire « Ouais, ces jeunes-là, ils vont y arriver. » Et je le comprends. Mais il y a Xavier qui est là-bas. Là. Merci encore, Xavier, de nous avoir aidés. Parce que c'est vrai que tout simplement, il fallait déposer déposer des fonds pour pouvoir bloquer sa place pour le Vendée Globe, etc. Et il y a quelques partenaires de longue date qui étaient déjà là en Figaro, etc. et qui nous ont dit ils ont mis en avant l'humain avant le côté risque financier, quoi. Et c'est vrai que du coup ça leur a permis de. Enfin, ils ont cru en nous et pas que en moi. Ils ont cru en l'équipe, en mon frère. Il y avait toute une histoire derrière. Et donc déjà, cette histoire, elle commence là en fait, parce que sinon ça s'arrête assez vite. Et après du coup, c'est vrai que quand on a ramené le bateau, du coup, ça c'était en 2019. On ramène le bateau du Japon. On avait commandé un mât à l'origine, donc il devait être livré en septembre. Pour participer à la Transat Jacques Vabre, qui était ma première course de qualification au Vendée Globe en fait, et donc en double que j'allais faire avec mon boat captain. Donc nous on reçoit le bateau, donc le bateau je vais au Japon, je négocie un peu, je le mets sur un cargo là-bas, un cargo qui ramène en plus des, on essayait de limiter les coûts et tout, donc on a trouvé un cargo qui ramenait des tracteurs et des machines agricoles et tout. On a posé dessus en bricolant des roulettes pour pouvoir le passer pour que ça passe la hauteur nécessaire, etc. Parce que le bateau il fait quand même 20 mètres de long, 6 mètres de large, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc voilà, finalement le bateau il arrive à Zeebruges, de Zeebruges on arrive à le ramener en Vendée, donc à la Motte à Charles dans les terres. On commence à tout démonter, etc. On commence notre rénovation, donc on est passé partout, hein, l'hydraulique, l'électronique, l'informatique, la structure du bateau. Voilà, par chance, on avait quand même pas mal de compétences en interne, donc on faisait beaucoup d'heures de boulot, mais on arrivait à s'en débrouiller. Et arrive donc le moment de la livraison du mât, ou une semaine avant, où on appelle quand même pour savoir où ils en sont et savoir si ça allait bien se passer. Et en fait, ils nous disent... on vous a pas dit, en fait, le mât, on l'a pas fait. Et du coup, bah là, moment un peu raide, parce qu'on leur dit, bah en fait, il y a pas le choix, en fait, on doit être au départ de la tournée de Jacques Vabre. Le départ, je crois que c'était début novembre. Et il fallait qu'on y soit une semaine avant pour le village grand public, etc. Donc il fallait qu'on y soit fin octobre. Et donc là, on commençait à être début septembre et on n'avait pas de mât, quoi. Et un mât, c'est 1800 heures de travail, quoi. Et donc là, on commence à se dire, voilà, ça va être compliqué. Donc là, c'est grosse remise en question, comment on va faire. Enfin, en gros, on a exploré toutes les pistes, donc récupérer un vieux mât qu'on pouvait adapter sur le bateau, etc. Il y avait pas vraiment de solution, quoi, qui pouvait être adaptée, qui pouvait être aussi. Enfin, on n'avait toujours pas de budget, quoi. Donc ça facilite pas le truc non plus. La banque nous avait suivi pour acheter un nouveau mât, mais c'est tout, quoi. Et donc à ce moment-là, bah en fait, on a débarqué à 5 en Bretagne chez le fournisseur un lundi matin. Et on lui a dit, bah en fait, très bien, t'as pas pu faire notre mât, donc on va le faire, en fait. Donc tu fais comme tu veux, mais nous on reste là tant que le mât il est pas parti d'ici, quoi. Et donc voilà, on est arrivé avec notre équipe. Et en fait, on a eu la chance aussi d'être pris en considération, pas par les dirigeants de cette boîte, qui nous avaient dit qu'en gros, ils préféraient être en procès avec. Parce qu'en fait, c'est une boîte qui construit des grosses pièces pour d'autres très grosses boîtes ou pour d'autres grosses écuries. Et c'est vrai que nous, on était un petit client pour eux. Et donc, voilà, ils étaient très en retard dans leur commande. Donc, en gros, ils nous ont placés plutôt derrière que plutôt devant, parce que nous, on risquait de leur faire moins d'ennuis quand même. Et donc du coup voilà, mais par contre on a été vraiment pris en considération par les membres de leur équipe de chez eux, en fait, les gens qui travaillaient chez eux. Et donc là est arrivée une aventure finalement qui était hyper dure à passer, vraiment un moment délicat, mais au final qui a soudé notre équipe comme jamais, parce qu'on a fait enfin on a bossé jour, nuit, week-end, tout confondu, truc assez dingue, et tout ça pour arriver que fin septembre Donc c'est un mât qui est construit en carbone, pré-imprégné. Donc il y a trois bouts de tubes. Donc trois bouts de tubes qui ont été faits dans des autoclaves. Donc une autoclave, le pré-imprégné, en fait, c'est un carbone dans lequel la résine est déjà dedans. Et en gros, il faut chauffer et mettre sous pression pour que ça se durcisse, pour faire simple, pour que ça polymérise. Et en gros, nous, on n'avait pas les moyens d'avoir ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'on était chez eux. Donc ils ont fait les épreuves de drapage. Donc ils ont drapé trois bouts de mât, trois tronçons. Donc notre mât, il fait 30 mètres. Donc en gros, ça faisait trois morceaux d'environ 10 mètres, un peu moins, mais grosso modo, quoi. Et donc du coup, ils ont fini ces bouts de tube en Bretagne. On les a mis sur une remorque. On est allé à la motte à char chez nous. On a fait des gabarits en bois sur lesquels on a aligné les trois bouts de tube au laser. Et on a fait après ce qu'on appelle des scarves, donc des manchons. Et en fait, on a préparé les manchons pour assembler les trois bouts de tube. Et tout ça, on l'a fait chez nous dans nos ateliers à la Motte. Donc c'était un bon défi. Et faire tous les usinages, etc. En fait, on se rend pas compte, mais un mât de bateau comme ça fait quasiment 2 cm d'épaisseur de carbone. Et c'est énorme. Donc les usinages, c'est assez important. Enfin, c'est assez compliqué à faire parce que le carbone, c'est quelque chose d'assez raide, assez dur. Et donc voilà, donc en fait on a fait toutes nos pièces chez nous, donc toutes les pièces qui vont autour du mât, etc. Et donc fin septembre, on arrive à mettre un mât sur le bateau et j'ai pu faire ma deuxième navigation en IMOCA avec l'équipe. On ne savait pas où fallait mettre les cordages, etc. Je me rappelle, c'était assez incroyable. Et donc du coup, voilà, en gros, à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, il ne peut plus rien nous arriver. On va y arriver, ça va être facile. Et donc ouais, donc ça c'était voilà. Et donc enfin une semaine plus tard, on fait notre qualification pour la Transat Jacques Vabre en montant au Havre. Donc voilà, les organisateurs étaient pas hyper confiants en nous, mais mais en fait quand ils ont vu comment on avait géré notre truc, finalement on était bien plus professionnels que d'autres équipes. Donc finalement c'est plutôt bien passé. Et donc on prend le départ de la Jacques Vabre un peu crevé, un peu aussi en découverte du bateau, mais on fait une belle transat avec Thomas, avec mon beau capitaine. On arrive au Brésil, je ne sais même plus combien on fait, je crois 18e, 19e. Mais c'était une superbe transat. On a appris à découvrir notre bateau. Enfin, en fait, c'est marrant, quand on découvre un bateau, on apprend presque une personne, en fait, parce qu'on apprend ses bruits, on apprend quand le bateau commence à être fatigué. On apprend vraiment. Enfin voilà, quoi, on apprend vraiment son bateau, quoi. Et donc on crée vraiment des liens avec. Et donc là, c'était les premières fois. On ne savait pas ce que valait notre mât, etc. Même si on a fait des contrôles à ultrasons, etc., pour être sûr que tout le composite était bien fait, on ne sait pas non plus ce que ça donne. Après, en théorie, il n'y a pas de souci. On a demandé plutôt un. Enfin, enfin, au cabinet d'ingénieur, on a demandé un truc plutôt solide que plutôt pas solide. Notre objectif, c'était avant tout de finir le Vendée Globe et de faire quelque chose de fiable. Donc, on a quand même demandé un truc plutôt solide. Parce que le jeu en IMOCA, c'est genre de limiter le poids et d'être à la limite de la rupture, quoi, en gros. Nous, c'était pas du tout notre jeu, parce que notre jeu, c'était de finir le tour du monde et avec peu de budget. Donc, nous, notre jeu, c'était surtout que le mât, il tienne debout et qu'il fasse le tour du monde, quoi. Et donc voilà, et donc après on arrive au Brésil, et là deuxième épreuve qui arrive assez vite quand même, donc là on se dit ouais, mais après cette première épreuve finalement tout était assez simple, hein, même si c'était un peu chiant pour le moral. En gros on est amarré au port, peinard. J'allais repartir le lendemain en qualification Vendée Globe, donc il faut que je fasse plus de 2000 milles en solitaire pour pouvoir me qualifier au Vendée Globe sur mon bateau. Et donc là, j'avais à peu près 5000 milles sur le retour de la Transat Jacques Vabre. Donc je me disais, bah, c'est cool, ça va me faire en plus un bon entraînement. Parce que la Transat Jacques Vabre, c'était ma première Transat aussi. Donc voilà. Donc là, j'allais faire le retour en solitaire. Je trouvais ça vraiment. C'était vraiment une super préparation. Et la veille de partir, je suis en train de faire mes mails dans un bureau peinard et j'entends crier dehors et tout. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Et là, je vais voir dehors et en fait, il y a une vedette à passagers qui est rentrée dans notre bateau, quoi. Qui a percuté notre bateau en plein travers, quoi. On se retrouve avec. Je suis allé chercher l'ancre du bateau qui était dans mon bateau, quoi. et donc on se retrouve avec un trou comme ça la veille de partir. Une partie de l'équipe technique qui est déjà rentrée. Donc on n'était plus que deux, quoi. Et donc voilà, un peu chiant quand même comme truc. Du coup, j'ai pas énormément profité du Brésil, du coup. Parce que du coup, j'ai passé deux semaines en plus là-bas, à, en gros, refaire un moule par l'extérieur de mon bateau, tout meulé à la main. On était deux, et il fait 45 degrés au soleil, donc en gros, on bossait la nuit, avec des lampes et tout. Et en plus, là-bas, c'était la guerre pour trouver de la résine, du composite et tout. Heureusement il y a Banque Populaire qui nous avait filé de la résine, une autre team qui nous avait filé du carbone, voilà. Et en gros, en plus, l'assureur, il voulait pas qu'on reparte parce qu'il, tant qu'il n'y avait pas eu une expertise faite par des experts pour être sûr que la structure du bateau était pas touchée, etc. Donc on a dû faire expertiser le bateau avant la réparation, après la réparation, et donc à deux on a fait la répa, ouais, en un peu plus d'une semaine, en bossant la nuit et tout, et donc du coup on devait repartir avec tout un groupe, et finalement du coup on était le dernier bateau au port et on est reparti un peu tard en solitaire, vraiment en solitaire cette fois, c'est vrai. et donc voilà, et le tout avec une répa faite ce qu'on appelle au contact, donc c'est une répa très bien faite et très solide, mais déjà moi en gros je suis plutôt sur la conception, normalement c'est plutôt ça mon point fort, et après j'aime bien bricoler, mais je suis pas un très bon en finition, quoi. Et donc voilà, j'aime bien, je sais toucher à tout, mais par contre voilà, je suis pas un expert en carbone, je suis pas un expert en électronique, donc voilà, c'est vrai que ma répa elle était un peu lourde, mais bon, ça, il fallait juste que ça tienne sur le retour, quoi. Et donc voilà, et au final bon bah c'est bien passé, ça a tenu sur le retour, il a juste fallu redécouper le bateau en arrivant pour que les gars ils refassent ça bien pour que le bateau prenne pas trop de poids. Donc après on a refait des moules en arrivant, et donc du coup en fait on a reperdu un mois et demi pour refaire ça bien en arrivant, ce qui a fait qu'on a accentué le développement du bateau sur la fiabilisation plutôt que sur la performance, en fait, parce que du coup on avait prévu de faire un chantier plutôt sur la performance, et du coup on a laissé tomber, on est plutôt parti sur quelque chose sur la fiabilisation, et donc voilà. Et après c'est vrai qu'on a, en plus, on était plutôt dans un bon mood. On venait de signer un nouveau partenaire qui nous accompagnait jusqu'au Vendée Globe, jusqu'à la Transat Jacques Vabre d'ailleurs de cette année normalement. Donc on était plutôt dans un bon mood, tout allait bien. On venait de finir la répa, on était en train de commencer à décorer le bateau pour pouvoir remettre à l'eau, etc. Donc avec les couleurs du nouveau sponsor et tout. Et Covid, bam. Du coup, le bateau reste dans le hangar. Ce nouveau partenaire, bah, malheureusement, groupe hôtelier, quoi. vraiment dur pour eux. Période pas simple, et du coup, ils sont dans l'obligation aussi de se retirer. Et chose qu'on, enfin, on est des humains aussi, on comprend aussi. Enfin, il y a des centaines de salariés derrière. Et donc voilà, nous, notre petit projet, c'est une petite, enfin, ça a un peu d'envergure au final. Et donc voilà, enfin, en tout cas, on se retrouve nous sans partenaire titre, du coup, dans cette période-là. Donc un peu coup dur encore, mais après là, on croit vraiment en notre truc. On se dit, bah, on va y arriver, toujours soutenu par des gens qui nous ont jamais lâchés. Donc ça, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et puis ça s'est très bien passé, hein, ces relations avec ce groupe-là. Enfin, en gros, nous on pouvait rien leur. Enfin, c'est pas de leur faute non plus, quoi. C'est de la faute de personne. Et donc voilà, toujours nous, il fallait quand même qu'on continue à travailler. Et là, c'est un peu la boîte qui nous a sauvés, en fait, finalement. Le côté, la mise en place de pouvoir travailler pour des plaisanciers, etc. Donc en fait, on a préparé des bateaux pour Beneteau pour aller au Salon de Cannes. Donc on préparait leur prototypage, etc. Et donc on faisait tout ça en parallèle du coup de la préparation de l'IMOCA. Donc on a encore beaucoup bossé pour pouvoir alterner entre la préparation de notre bateau à nous et la préparation du bateau des autres. Mais du coup, ça nous a permis en tout cas de continuer à garder notre équipe et de pouvoir continuer à bosser en attendant de trouver des nouveaux partenaires. Parce que nous, on avait vraiment un groupe de multi-partenaires. On avait vraiment plein de partenaires différents, que ce soit des petits, des plus gros. C'était vraiment... Pour le coup, humainement, c'était vraiment hétérogène et humainement, c'était vraiment hyper intéressant, quoi. Je me rappelle quand on organise le baptême du bateau au sable. En gros, il y a une multitude de personnes d'horizons différents. C'était vraiment humainement super, super riche, quoi. D'ailleurs, je remercie Yodéfi là et puis le club des plaisanciers qui était venu nous faire des grillades de thon, etc. Voilà. Il fait quand même qu'on garde une petite ambiance conviviale, hein. On a un petit projet. et donc finalement, on a un partenaire en gros, j'ai un appel de Syria, quoi. Je sais plus à quel moment, j'étais en train de faire un barbecue chez des potes, il me dit, ouais, j'ai peut-être quelqu'un qui serait intéressé, etc. C'est le bon moment pour eux, il faut qu'ils se fassent connaître, etc. Et tous leurs salons ont été annulés. Donc, y a peut-être quelque chose à faire. Donc là, je vais rencontrer Omia, qui est une boîte qui fabrique des cabines de peinture. Et donc, voilà. Et donc, finalement, ils me disent, tous les salons ils ont été annulés. Comment on peut faire, etc. Nous, le bateau, ça nous intéresse. Mais bon, comment est-ce qu'on peut faire un vrai retour là-dessus? Puis moi, je savais pas quelle performance j'allais faire, je savais pas si médiatiquement ça allait être intéressant pour eux. Donc on a cherché à innover pour essayer de faire en sorte que notre projet soit intéressant au-delà de l'aspect sportif, quoi. Et donc du coup, on a mis en place des salons éphémères au sable. Donc en gros, eux, ils invitaient des clients par petits groupes parce que période Covid. Donc on faisait des visites du bateau, donc c'est comme ça qu'ils arrivaient à les faire venir. Et en parallèle, en gros, le matin, c'était visite du bateau, de l'équipe, rencontre, etc. Et l'après-midi, c'était présentation des produits des cabines de peinture, de Omia, des systèmes de traitement de l'air, etc. Et donc, du coup, c'était pour eux l'occasion d'inviter leurs clients dans une période où ils ont invité personne et ils ont rencontré personne, quoi. Donc, c'est finalement comme ça qu'on a monté le projet. Bon, après, il s'est avéré que finalement... la performance était au rendez-vous, médiatiquement c'était au rendez-vous, mais finalement ça c'était la petite cerise sur le gâteau après. Mais en tout cas, on a monté notre projet autour de quelque chose d'assez innovant, et ça c'était assez sympa aussi à faire. Et donc voilà, et du coup notre grande fierté, c'était vraiment d'avoir emmené tout ce groupe de partenaires autour du monde, et puis toute cette équipe, quoi. Parce que du coup, quand on a plein d'aventures un peu complexes et tout, et qu'il faut gérer plein de sujets un peu pourris, et ben au final on est content d'aller au bout quand même. Et ça, c'était vraiment le truc dont on avait besoin, je pense, et c'est ce qui a fait que ça a créé toute cette émotion. Et je pense que moi, c'est ce qui a fait aussi que quand j'étais en mer, je pensais à tout ce qui s'était passé, etc. Je me disais, c'est pas parce que t'as une poulie qui vient de casser que tu dois te stresser, quoi. et donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'après on s'est tous un peu poussé les uns les autres, quoi.
Alors, je vous laisserai lui poser toutes les questions que vous souhaitez sur le Vendée Globe. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'après, puisqu'il y a eu ce Vendée Globe, une belle histoire. Vous lui poserez effectivement les questions. Mais depuis que tu es revenu à terre, tu as refait plusieurs courses en équipage, alors que tu as vraiment pris goût aux courses en solitaire. Pourquoi tu cours en équipage en ce moment ?
C'est une bonne question. Je pense que c'est un peu des histoires d'opportunités. Déjà, j'ai jamais été contre l'équipage. Hein. J'ai fait beaucoup de régates en équipage. On a toujours eu un peu de mal à me supporter, mais j'ai fait pas mal de courses en équipage. En rentrant du Vendée Globe, période après Vendée Globe, donc pas mal de sollicitations, etc. Après, retour un peu à la vie normale. Moi, je pense que j'ai eu un peu la chance d'avoir aussi le chantier, d'avoir l'équipe derrière, où en fait on avait de l'activité, donc ça bougeait quand même bien, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas si simple de rentrer sur Terre après un Vendée Globe. Et j'ai l'appel de l'équipe allemande, la Offshore Team Germany, qui m'appelle déjà en anglais, avec mon anglais légendaire, pour me demander si je suis intéressé d'aller naviguer avec eux pour prendre le rôle de navigateur. Donc navigateur, c'est celui qui gère la tactique, la stratégie à bord du bateau sur la météo, la navigation, les trajectoires, quoi. Et donc, je leur dis, écoutez, très bien, pourquoi pas. Par contre, je parle pas très très bien anglais. Enfin, j'ai fait un stage de 3 mois en Angleterre pour aller construire des bateaux il y a quelques années. J'aimerais bien parler anglais et tout, mais je suis novice, quoi. Et je leur ai dit, par contre, moi, le projet m'intéresse. Et en fait, ils m'ont dit carrément, l'anglais, on s'en fout, on arrivera bien à se comprendre. Et puis moi, je leur disais, de toute façon, pour moi, ce serait l'opportunité de progresser, quoi, dans la langue, surtout de vivre une aventure culturellement intéressante. Et du coup, ils m'ont dit, écoute, dans un mois, on débarque chez toi au sable pour aller s'entraîner, etc. On n'a pas beaucoup de moyens. On n'a pas beaucoup de moyens, mais on a des ambitions. On a un mécène qui suit le projet. On a une équipe. Donc en gros, ils ont une équipe technique qui était préparée par des Anglais, un Néo-Zélandais. Ils avaient choisi une Anglaise qui s'appelle Annie Lush, qui est une spécialiste de la Volvo Ocean Race, qui a fait plusieurs Volvo, etc., qui est très, hyper compétente. Un skipper qui sort de l'Olympisme. En gros, ce qu'il voulait, c'était promouvoir la mixité de différents bateaux à bord de ce bateau. Et il s'était dit, ça va être une super idée de pouvoir mélanger tous ces horizons différents d'expérience, quoi. Donc il y avait elle qui était spécialiste de l'équipage au large. J'étais plutôt spécialiste du solitaire et de la météo et des trajectoires au large. Donc on avait quelqu'un qui sort de l'Olympisme, donc un barreur très talentueux, qui avait fait les JO pour l'équipe d'Allemagne, etc. Et à côté de ça, on avait un jeune allemand qui lui a aussi commencé l'Olympisme en Fine. Le Fine a été retiré des JO aussi, donc il cherchait aussi à faire autre chose. Il y a une bonne marmule aussi pour tourner les winches, c'est pas mal. Et un médiaman, quoi. Donc en gros, ils sont venus s'installer au sable pendant un peu plus d'un mois. On s'est beaucoup entraîné. J'avais mes petits cours d'anglais personnels par Annie, et puis petit à petit on commençait par des discussions un peu creuses parce que je comprenais rien, et sauf que après il fallait quand même qu'on échange sur des sujets qui étaient quand même importants pour la performance, etc. donc il fallait bien se mettre dedans, mais du coup ça s'est plutôt fait assez naturellement, et donc on est parti sur ce tour d'Europe avec pas plus d'ambition que ça, un bateau un peu plus vieux, à dérive, très très bien préparé par l'équipe anglaise. En fait, c'est une partie de l'équipe de Hugo Boss, d'Alex Thompson, donc c'est quand même une bonne équipe. Et histoire fait qu'en fait, les autres sont rentrés du Vendée Globe, ils ont passé beaucoup de temps en chantier, mais ils ne sont pas beaucoup entraînés, quoi. Et nous, au final, avec nos 1 mois d'entraînement, on était finalement quasiment, à part l'équipe de Eleven Sauer, qui eux sont là pour faire de l'équipage, et on était plutôt bien entraînés, quoi. Et donc, première étape, c'est vrai que c'était, c'était pas simple, parce que course de foiler, reaching, etc. Et en fait, on a, En fait, y a une dorsale en plein milieu et ça tamponne et en fait tout le monde s'arrête et au final on fait avant-dernier à cette étape, on arrive tous ensemble. Donc c'était quand même assez intéressant. Et après on arrive en Méditerranée où les vents sont assez erratiques. Finalement on fait du pré et finalement au pré on est aussi rapide qu'eux, quoi. Donc on a rien à envier aux foilers. Et donc en fait on se retrouve à vite être dans le match de cette course et en fait on se rend compte que bah, que ces différences de culture en équipage là, et ben en fait nous apportent beaucoup les uns les autres. Et qu'en fait, on est un groupe soudé. Voilà. En plus, c'était hyper. C'était une expérience assez unique, quoi. Notre cuistot, c'était un Espagnol. Enfin, il y avait vraiment. C'était vraiment un projet vraiment sympa, intéressant. Et donc, voilà. Au final, on gagne. Donc là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'était assez improbable, mais c'était assez incroyable. On gagne, mais c'était genre. ça se joue à genre 10 mètres, quoi. Genre, dernière manche, dernier truc. Petit parcours inshore et on arrive et il y avait un empannage à caler et en gros on était avec les équipes de LinkedIn, c'était soit on faisait premier soit on faisait troisième, quoi. Et dernier empannage, on leur empanne juste dessus et on arrive à passer voilà à 10 mètres, quoi. Et donc vraiment un truc de malade. Et donc au final voilà, fin d'une belle aventure. Donc ça c'était chouette, donc c'était début de l'équipage. Et en fait, cette course m'a beaucoup donné envie, après je passe, on parlera de la suite, mais m'a beaucoup envie de participer à justement, parce que là c'était une version raccourcie de la Volvo Ocean Race, parce que du coup avec le Covid, ils ont pu faire qu'une version européenne cette année, et du coup ils ont repoussé la version monde à l'année prochaine, et donc ça m'a beaucoup donné envie de participer à cette course. Et donc voilà, et après le reste de la saison, là c'est avec Damien Seguin, donc skipper en e-sport, 7e du Vendée Globe, une bonne tête brûlée aussi. Qui a déjà gagné les JO deux fois en paralympique, plusieurs fois champion du monde, etc. En gros, j'avais plusieurs opportunités d'embarquement et cette année, en fait, j'avais soit l'opportunité d'embarquer sur des foilers un peu plus récents, soit avec Damien. Le choix n'était pas simple, mais en fait, humainement, on a appris à se connaître pendant le Vendée Globe et on a une bonne histoire à écrire ensemble. Et je suis persuadé qu'en termes d'expérience, même si on est sur un bateau un peu plus vieux, je vais apprendre plus par Damien que par les autres, à qui je pense que c'est moi qui apprendrai plus de choses, quoi. Donc en gros, le choix n'était pas simple, mais finalement, le choix s'est porté sur le bateau le moins performant, mais je pense la personne qui humainement est la plus intéressante, quoi. Et donc là on a commencé par le Fastnet avec Damien qui était notre première finalement course d'entraînement et puis premier entraînement. On finit 7e, donc c'était plutôt assez bien parce qu'il n'y avait que des foilers et tout ça. Un départ un peu chaud dans le Solent, dans 30-35 nœuds avec 350 bateaux, un bordel monstre. Où on avait établi une stratégie qu'on n'a pas du tout suivie parce qu'à la fin c'était juste on survit pour sortir de là. et une fois qu'on était sorti, on a pu faire notre route, etc. Et on s'est retrouvé être finalement à se batailler avec des bateaux à foil, etc. Donc on était assez content. Le bateau de Damien est vraiment bien préparé, une équipe plutôt sympa. C'est marrant parce que j'adore les valeurs de Damien dans le sens où. Enfin, quand on est handicapé et qu'on regarde ce qu'il fait, on se dit mais en fait, je peux tout faire, quoi. Il est assez incroyable là-dessus, c'est qu'il porte un message qui est assez important et je pense que nos messages entre moi, le mien avec la Water Family, lui le sien auprès des enfants qui sont handicapés, etc. Ça avait vraiment un vrai lien parce que en gros à PC ils défendent vraiment l'inclusion et Damien, franchement, je n'ai eu avec lui, j'ai vraiment pas l'impression qu'il lui manque une main, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Je lui demande d'aller à l'avant. Aller crocheter une voile, etc. Il va aussi vite que moi à le faire, quoi. Et donc il a vraiment appris à vivre avec son truc. Et franchement, le seul aménagement qu'on a à bord, c'est juste à la colonne de winch. Bah forcément, il peut pas prendre la poignée, donc il a juste un manchon adapté. Mais sinon, il y a quasiment rien d'adapté d'autre. Donc voilà, comme quoi la force mentale et tout. Et puis en gros, il arrive à faire vivre ses rêves. Et pourtant, il me racontait toute son histoire. Du coup, pendant le Fastnet, on a eu le temps de discuter, etc. Et on n'a pas eu les mêmes galères, mais il en a eu pas mal aussi, quoi. C'est-à-dire qu'au début, il voulait pas qu'il fasse le Vendée Globe quand même. Et donc, je pense qu'il a eu, il a fait un bon retour de bâton au final en finissant la course en beauté, quoi. Et je pense que ça lui a bien donné la niaque aussi. Donc voilà. Et puis donc voilà. Et donc on prépare la Transat Jacques Vabre avec Damien. La prochaine course ce sera le Défi Azimut. ensemble. Après, on intègre le centre d'entraînement de Port-la-Forêt pour aller s'entraîner. Donc, ça va être mes premiers stages à Port-la-Forêt. J'ai failli y aller plusieurs fois en Figaro, etc. Mais en tant qu'irréductible gaulois et vendéen, je restais dans ma bonne Vendée m'entraîner. Parce que j'ai toujours été partisan de pas trop aller non plus. Ils s'entraînent tous, ils sont nombreux, etc. C'est chouette, ça donne de l'échange, mais je pense que pour bien s'entraîner, il ne faut pas non plus être trop nombreux. Il faut être surtout avec des personnes ouvertes. Et c'est vrai que là-bas, vu qu'il y a beaucoup de bons qui s'entraînent ensemble, on ne sait pas trop si ils se donnent vraiment tous les tuyaux ou pas, quoi. Mais bon, du coup, c'est ma première expérience à Port-la-Forêt. On va voir, ça va être sympa. Voilà, il faut qu'on avance, elle me dit Viviane.
Sinon, ils ne vont pas pouvoir poser les questions et ils seront déçus. Donc, tu as récemment, là, tu as annoncé officiellement le rachat d'un très beau bateau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes choix et sur ton programme ?
Oui, carrément. Alors déjà, on a vendu notre bateau. Donc ça, déjà, c'était une bonne chose parce que ça nous a quand même permis de retomber sur nos pattes après notre projet qui était quand même... un projet avec lequel on avait vraiment peu de budget et pourtant on a fait les choses très professionnellement, donc il fallait quand même qu'on retombe sur nos pattes. Et finalement, le fait de pas avoir fait les choses à l'arrache et de quand même avoir investi dans le bateau pour que le bateau soit clean, etc., bah déjà ça nous a permis de faire le tour du monde quand même, c'est pas mal. Et ça nous permet aussi de vendre le bateau correctement derrière, donc ça nous permet de retomber sur nos pattes, donc déjà c'est une bonne chose. Et donc on a quand même la chance justement d'avoir la société à côté qui nous a permis de refaire tous les entretiens du bateau, etc., à des prix qui sont plutôt corrects. Et donc le bateau a été vendu à Guirec Soudé là. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un breton un peu fou. Vous doutez que c'est un breton, d'où le nom Guirec. Mais c'est un breton un peu fou, un aventurier qui avait fait un tour du monde avec une poule sur un bateau en alu. Il avait jamais fait de bateau à voile et tout. C'est un mec assez marrant. Là en ce moment il a été perdu pendant plus de 20 jours dans l'océan Atlantique. En gros il fait une transatlantique retour à la rame, il est parti de Boston, il est censé arriver en France on sait pas quand. Et pendant 20 jours ils l'ont perdu quoi. Et il a croisé un cargo dernièrement, il a dit au cargo tout va bien, nickel, je continue ma route. Je suis pas hyper inquiet pour qu'il finisse le Vendée Globe. Voilà, après il va avoir beaucoup de choses à apprendre parce que voilà, c'est pas forcément un compétiteur, c'est vraiment un aventurier. Mais je suis content aussi que mon bateau il aille entre ses mains parce que ça a l'air vraiment d'être un mec bien, un mec sympa. Et mine de rien, j'ai quand même créé quelques liens avec mon bateau et je suis content qu'il aille dans les mains de quelqu'un de sympa. Et donc nous, on rachète un bateau, on essaye de passer un peu l'étape supérieure. Pour le coup, nous, on est plutôt attiré par la performance que par l'aventure. Et donc on rachète un bateau qui était là sous les couleurs d'une équipe américaine qui s'appelle Eleven Sauer. Et un bateau qui avait été fabriqué pour Hugo Boss en 2016. Et donc un bateau à foil, quoi. Et donc avec toutes les dernières évolutions, parce que du coup, la chance de ce bateau-là, c'est qu'il a été évolué tout le temps, parce qu'en fait, il a tout le temps été dans des grosses équipes avec des moyens. Donc du coup, le bateau, il a tout continuellement été évolué. Là, il fait 3e au Fastnet, juste derrière Charal. Et donc voilà, on est content d'avoir pu en tout cas racheter ce bateau. Je sais pas dans quel délire on s'emmène encore, parce que du coup on repart encore pour quelques années de stress, je pense, avec un bateau qui coûte encore un peu plus cher. Mais voilà, je pense que c'est comme encore une fois dans un projet d'entreprise. Hein, je pense qu'il y a besoin de se renouveler, d'avoir des nouveaux projets, des nouveaux investissements. Et ça, c'est notre nouvel investissement qui fait que notre équipe, elle va être encore surboostée à 200% pour réussir. Puis là, il faut dire que les Bretons, ils nous attendent au tournant. Là, cette fois, maintenant, on va être équipé à peu près pareil qu'eux. Et donc, on est content de récupérer cette monture. On a choisi ce bateau parce que tout simplement, en fait, on avait plusieurs choix. C'était soit on partait sur un bateau... on va dire à moitié performant avec des vieux foils, etc. Est-ce qu'on aurait pu être au niveau de ce qu'on souhaitait, c'est pas sûr. Et est-ce que finalement ce qu'on aurait pu vendre à nos nouveaux partenaires, ça aurait pu amener la performance attendue, c'est pas sûr non plus. La deuxième solution, c'était est-ce qu'on part sur un bateau, une construction d'un bateau neuf, qui aurait aussi très bien pu se faire. Hein. Là, il y a déjà 10 bateaux neufs en construction. Mais bon, là, en fait, on se sentait pas vraiment prêt non plus, et on perd quasiment un an et demi aussi à la construction d'un bateau neuf. Ça veut dire qu'on navigue pas tout de suite. Nous, on n'a pas encore d'expérience sur les foils, et donc notre choix raisonné, ça a été de dire, on essaie de trouver le bateau qui est déjà optimisé. Bon, c'est pas le bateau de dernière génération, mais il a déjà une paire de foils assez récente. Certes, il sera un peu plus lourd, mais il sera plus fiable. Et on va continuer sur la base de, on veut quand même un bateau fiable, on veut quand même finir les courses, mais on veut quand même aller vite. Et on veut aussi gagner du temps sur notre préparation. C'est-à-dire que nous, ce bateau-là, il va nous permettre de... En gros, dès qu'on va récupérer les clés après la Transat Jacques Vabre, eh ben, on va pouvoir aller naviguer tout de suite, quoi. Et donc, du coup, aller naviguer tout de suite, ça veut dire bah, commencer à découvrir son bateau, redécouvrir... Enfin, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, la redécouverte d'un nouveau bateau, donc de ses sons, de la manière de vivre à bord, etc. Et en fait, c'est un an sur ce bateau. Enfin, c'est un an de gagner sur ce bateau. Ça va nous permettre de le découvrir vite, et donc on espère de le prendre en main le plus vite possible, quoi. Voilà. Bon.
Avant d'aller aux questions du public, je voudrais juste un dernier point que tu nous parles de budget, de financement sur ce projet.
La question qui tue. oui, bah, c'est sûr qu'on sur ce nouveau projet, forcément, on repart dans le démarchage, dans la recherche de nouveaux partenaires, etc. La bonne nouvelle, c'est que on a quasiment trouvé un partenaire pour le Vendée Globe, mais ce partenariat risque de commencer que mi-2023. Donc en fait, on est en train de se poser la question de est-ce qu'on prend le risque de dire oui à ce partenaire et donc par contre du coup ça commence qu'en mi-2023 jusqu'à 2026, donc c'est pas mal, mais par contre on a quand même de 2022-2023 à trouver. Voilà, où est-ce qu'on continue nos recherches et on essaie de trouver quelqu'un qui nous accompagne dès l'année prochaine jusqu'à 2025, parce qu'en fait notre objectif notre objectif numéro 1, c'est le Vendée Globe 2024-2025. Le deuxième objectif, ça va être d'essayer d'être au départ de The Ocean Race, qui est la course autour du monde en équipage, anciennement la Volvo Ocean Race. Parce que bah, voilà, depuis l'expérience que j'en ai eue, je pense que si on veut se préparer parfaitement au Vendée Globe, eh ben, en fait, de faire cette course, eh ben, ça nous amène des billes que jamais on aurait, parce que déjà le bateau il aura fait un tour du monde. En équipage, donc avec des mecs qui tirent dessus, donc ça veut dire que là déjà pour trouver les clés et les performances du bateau, au lieu d'être tout seul, et ben on est quatre, donc ça va faire progresser le bateau hyper vite, le fiabiliser beaucoup aussi. Donc en fait on aimerait beaucoup participer à cette course dans l'objectif Vendée Globe, et aussi parce que culturellement on va mélanger en gros l'Ocean Race, c'est une course qui médiatiquement est 3 fois, 4 fois plus importante que le Vendée Globe. C'est juste qu'en France on connaît le Vendée Globe parce que c'est la course en solitaire, etc. Mais à l'étranger, le Vendée Globe il commence à découvrir quand même pas mal, parce qu'il y a pas mal de skippers étrangers, etc. Mais à l'étranger, Ocean Race c'est une autre dimension, quoi. C'est vraiment c'est la course avec des villages hors normes, voilà, c'est une course bien plus importante, quoi. Une course anglo-saxonne. Et donc voilà, on aimerait bien passer par cette course-là. Et après, forcément, ça passera bah, par tout ce qui est Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, toutes les courses d'avant-saison, etc. Et donc oui, les histoires de budget, en gros, pour faire une course comme Ocean Race, ça coûte environ 5 millions. Et pour faire le Vendée Globe, ça coûte environ 5 millions aussi, quoi. Donc en gros, par contre, c'est sûr que Ocean Race, ça a beaucoup plus de retombées, mais c'est une course qui est beaucoup plus courte. Donc en gros, c'est quasiment un an et demi de projet Ocean Race, alors que le Vendée Globe, c'est plus de 3 ans de projet, quoi. Donc les budgets sont étalés un peu de manière différente. Voilà, c'est sûr que si on est une boîte française, qu'on a besoin de retombées françaises, le Vendée Globe, c'est nettement mieux. Si on est une boîte internationale, mais qu'on veut pouvoir inviter des clients, je sais pas, là, il y a des étapes en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Espagne, en Italie, il y a des étapes partout dans le monde. Donc en fait, c'est sûr que si on est une boîte internationale avec des filiales un peu partout dans le monde et qu'on veut inviter des clients ou pouvoir avoir des opportunités marketing un peu partout, c'est sûr que l'Ocean Race est bien, bien mieux. Donc voilà, on essaye pour l'instant de trouver les partenaires. Notre projet, en gros, il se dessine autour d'un partenaire titre. On soutient toujours l'association Water Family. Donc voilà, pour être assez clair là-dessus, Water Family, ils mettent pas d'argent. Hein. On va pas demander de l'argent à une association. Hein. C'est une asso qu'on soutient, quoi, pour laquelle on est ambassadeur. Et on arrive juste à trouver les partenaires qui sont d'accord de soutenir cette association parce que ça correspond aussi à leurs valeurs, ou ça correspond aussi à ce qu'ils ont envie de promouvoir, et aussi à l'histoire qu'on écrit autour de notre projet. Et donc, ouais, on va dessiner ça avec un des partenaires majeurs et avec 4-5 partenaires qui vont être des partenaires un peu plus petits, aux alentours des 150 000 euros par an, en gros, voilà, qui permet quand même d'avoir de la visibilité, mais d'avoir quand même ce complément de partenaires qui a fait notre force, en fait, aussi humainement du projet. Et puis, c'est toujours plus sympa quand on est plusieurs aussi.
Alors, je vous propose de passer à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? À gauche. Alors, je répète juste la question pour tout le monde. C'est comment on gère sur une course comme le Vendée Globe qui est longue, tous les moments compliqués de fatigue, de stress, de solitude, etc.
C'est une bonne question. C'est vrai qu'il peut y en avoir. Tu vois, je fais des nœuds tout le temps partout de toute façon. Même sur mon bateau, c'est un scandale. À chaque fois, j'ai des spaghettis partout, je m'en sors jamais. Je sais pas comment je fais. Bref. Et donc, oui, pour gérer ce genre de moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, toutes nos périodes de galère, on fait en sorte que mentalement, on est plus fort. Et puis, quand on pense à toutes les personnes qu'on engage dans nos projets, toute l'énergie qu'on y a mis, c'est vrai que c'est un. Disons que quand on se retrouve dans le fond du bateau à être à deux doigts de pleurer parce que ça, y a un truc qui a merdé, etc., et ben là, il y a tout ça qui revient et qui se dit non, mais. Enfin, tais-toi, quoi. Bouge-toi les fesses et ça va bien se passer, quoi. Et donc voilà, je pense que ça, c'est une de. Enfin, en tout cas, moi, c'était une de mes premières motivations, quoi. C'est de me dire, en gros, on a un boulot qui a été fait pendant 2 ans et ce boulot-là, faut le finir. Et c'est vrai qu'au début, on a toute une équipe et après, c'est le seul moment où je suis le seul à pouvoir le finir, quoi. Donc, en gros, il y a un moment, il faut que je compte aussi sur moi, quoi, et sur le fait que voilà, toute l'équipe, elle a pas fait un boulot pour rien, quoi. Voilà.
Prochaine question.
Est-ce que vous avez vu des orques?
Écoute, non, j'ai pas vu d'orques, enfin pas sur le Vendée Globe, j'en ai vu sur le Tour d'Europe, là, sur Ocean Race Europe, mais j'en ai pas vu sur le Vendée Globe. Sur le Vendée Globe, j'ai vu des baleines. Des dauphins, pas mal de mammifères, mais j'ai pas vu d'orques sur le Vendée Globe. Mais en plus, ils sont pas hyper sympas avec les bateaux, a priori. En ce moment, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a pas mal d'orques qui sont en Galice, autour de la Galice, etc., et qui vont sur les bateaux, qui poussent les quilles des bateaux et tout. Donc c'est assez étonnant. Je crois que c'est dans les premières fois que ça arrive. Je crois que les scientifiques, ça les intrigue un peu. Mais voilà. Mais non, j'ai pas vu d'orques du coup pendant le Vendée Globe.
Alors, le meilleur souvenir du Vendée Globe?
Désolé de vous décevoir, mais je pense que c'est l'arrivée.
Donc, quel conseil à donner aux plus jeunes qui souhaiteraient se lancer dans une aventure similaire?
Enfin, déjà, il y a beaucoup de jeunes qui commencent en mini 650, enfin sur plein de projets. Qui, je pense, se sont vachement retrouvés au travers de notre projet à nous, parce qu'on était un peu l'équipe jeune du truc, avec voilà, les jeunes qui baissent pas les bras et qui vont au bout de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont pensé. Donc, en fait, voilà, tout simplement, dans la même dynamique que nous, je pense que c'est vrai qu'au début, c'est pas facile de croire en ses rêves et c'est pas facile que de faire croire les gens, enfin, les personnes qui nous suivent en nous. Mais en gros, il faut juste voilà, croire en ses rêves, croire en son équipe, enfin en gros, je sais pas vraiment comment dire, mais je pense qu'il faut juste pas baisser les bras, quoi, et se dire que tout est accessible, quoi. Et juste savoir faire confiance, savoir voilà, croire en ses rêves, quoi, tout simplement.
Avec toutes les compensations et tout, vous deviez être dans l'inconnu un peu niveau classement, non?
Je vois que tu as très bien suivi. Moi, du coup, j'avais pas de compensation parce que, du coup, en fait, j'étais le prochain bateau à être dérouté. Donc, j'avais été appelé par la direction de course, mais j'ai pas été dérouté. Donc, du coup, moi, pour le coup, j'étais pas dans l'inconnu. Et tous les mecs qui avaient des compensations, ils étaient devant moi. Donc, en fait, moi, pour le coup, j'ai pas été touché par les compensations. Par contre, en tant que personne extérieure, ouais, pour remettre pour tout le monde, en fait, il y a un bateau qui s'est cassé en deux et qui a coulé, qui était perbé. Donc, en fait, Kevin était perdu dans un radeau pendant un certain temps. Et donc il y a des bateaux qui sont déroutés pour aller chercher Kevin, donc 4 bateaux. Et donc ces 4 bateaux-là ont eu une compensation en temps, parce qu'ils ont perdu du temps pour aller chercher Kevin. Donc à l'arrivée, en fait, on ne savait pas qui allait gagner ou qui allait perdre, parce que par exemple, le premier bateau qui arrive, c'est Charlie Dalin avec Apivia. Mais le deuxième bateau qui arrive, c'est Maître Coq. Sauf que Maître Coq, vu qu'il est allé chercher Kevin, et ben en fait, il a perdu du temps. Donc en fait, il a une compensation. Donc au final, c'est Maître Coq qui gagne. Donc c'est vrai que pour eux, ça devait pas être facile à gérer cette situation-là. Mais c'est vrai que quand je suivais moi aussi les, j'ai essayé de. Alors dans mon bateau, j'ai un logiciel sur lequel je fais des routages et je routais tous les autres bateaux en me disant qui peut gagner. Et là, j'essayais de regarder. La fin de la course, que j'étais aussi super à fond. Et c'est vrai que ouais, ça devait être particulier quand même, cette histoire de compensation, etc. Parce qu'au final, le premier à passer à la ligne, c'est pas le vainqueur, quoi.
Alors que deviennent les bateaux entre deux Vendée Globe, puisque ce sont des bateaux effectivement spécifiques?
Oui, c'est vrai que c'est des bateaux assez spécifiques pour le Vendée Globe. La classe IMOCA, en gros, les bateaux, c'est des boîtes de carbone, quoi. Il n'y a pas grand chose dedans. Qui sont assez quand même compliqués à utiliser. Donc, en gros, quand on est plaisancier moyen, c'est quand même, faut quand même faire une bonne formation pour pouvoir utiliser ce genre de bateau si on veut pas tout casser. La classe IMOCA, pour rappeler, du coup, faire rapidement un truc, en gros, c'est des règles. C'est une boîte dans laquelle on met plein de règles, en fait. Et toutes ces règles, c'est genre, il y a une longueur de bateau, une largeur de bateau, une hauteur de mât, une profondeur de quille, les matériaux qu'on peut utiliser. Et après, autour de ces règles, tout est libre. C'est un peu comme en Formule 1, en fait. C'est-à-dire, les mecs, ils ont le droit de designer le type de voiture qu'ils veulent, mais il y a des règles. Ils ont le droit de designer le type d'Imoca qu'ils veulent, mais il y a des règles. Et donc, nous, on court sur ces bateaux-là, qui sont des bateaux de course. En carbone, qui sont quand même assez technologiques, assez performants. C'est-à-dire que même nous, notre bateau de 2007 sur lequel j'ai fait le Vendée Globe, ça reste quand même un bateau qui est technologiquement intéressant, quoi. Et donc, qu'est-ce qui deviennent les bateaux en général, donc là, il y a une nouvelle règle qui est sortie, c'est-à-dire que le Vendée Globe ne va plus être accessible aux bateaux antérieurs à 2005. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a quelques bateaux, genre par exemple Super Bigou, Le Pingouin, des bateaux de 98, 2000, qui vont être sortis du circuit. Donc ces bateaux-là vont être vendus soit à des propriétaires passionnés, soit rééquipés. Nous, on avait prévu sur la revente de mon bateau de le revendre aménagé. C'est-à-dire on voulait assagir le bateau, mettre une quille fixe, couper le mât et en fait utiliser tout, parce qu'en fait c'est un grand bateau, hein. il fait quasiment 20 mètres de long, il y a moyen de faire des super aménagements, etc. Et on avait réfléchi à le revendre comme ça, en réaménager pour quelqu'un qui serait intéressé d'avoir un bateau de course de croisière rapide, quoi, très rapide. Et donc du coup voilà, après au final il y a quand même un marché hyper important, surtout en ce moment là. Il y a sur le prochain Vendée Globe, il y a déjà 48 candidatures. Donc en fait là ils savent déjà pas comment ils vont faire. donc en gros les questions qui se posent en ce moment, c'est est-ce que on autorise à plus de bateaux au départ, est-ce que on continue les sélections, comment on les fait. Donc là c'est les grosses questions du moment, quoi. Et donc les bateaux, ils ont une autre vie en général. Par exemple, moi je passe sur un bateau plus récent, et quand j'ai commencé j'avais besoin de ce type de bateau là, ce qui correspondait à mon budget. Et donc Guirec, il commence dans le circuit IMOCA, donc il lui faut un bateau. En gros, voilà, dès qu'on est nouveau dans le circuit, on essaie de trouver des bateaux adaptés à ses budgets, etc. Donc chaque bateau trouve propriétaire comme ça, quoi.
Une autre question?
Quand on est seul en mer comme ça, comment on organise ses journées, son sommeil, ses repas? Il y a des aléas, les tempêtes, la météo, etc. Mais globalement, est-ce que les journées sont structurées sur le même modèle ou est-ce qu'il y a des variantes?
Oui, c'est vrai que c'est une bonne journée. Une bonne question. Comment on organise nos... Mais c'est une bonne journée aussi. Hein. Comment on organise notre vie à bord, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'au début, on essaye d'organiser quand même une certaine routine. Parce qu'en gros, on sait quand même qu'il faudra qu'on mange 3 fois par jour. On sait quand même qu'il faudra qu'on boive. On sait quand même qu'il y a quand même des éléments qu'on peut pas changer. On sait quand même que le fichier il arrive à 6h15 le matin, qu'il arrive à 18h et qu'il arrive à 11h15. Les fichiers météo. Voilà. Donc en fait, il y a des heures de sortie des fichiers. Donc en gros stratégiquement, mes journées sont drivées par les sorties des fichiers. Parce que du coup, quand il y a un nouveau fichier météo qui sort, bah, je vais le chercher et je le compare au précédent, etc. Et j'essaie de trouver les nouvelles trajectoires. Et sinon, après, au début, j'essayais vraiment d'avoir, de manger mon petit déj le matin. Hein, d'avoir... Et en fait, après, ça s'est assez vite disloqué en « je mange quand je peux, où je peux ». Voilà. Mais non, c'est vrai que c'est pas facile d'organiser les journées parce qu'en fait, on, bah déjà en fait, on, je sais pas si on se rend bien compte, mais du coup, en fait, avec le créneau solaire et le créneau horaire, en fait, on fait le tour du monde. Donc en fait, il y a plus de rythme d'heure, quoi, déjà. Donc en fait, il y a un rythme soleil pas soleil. Et encore dans le sud, la nuit, enfin la nuit, si on peut appeler ça la nuit, parce qu'il y a plus de nuit, c'est vraiment le crépuscule, quoi. Ça dure 2 heures, quoi. Donc 2-3 heures. Donc en gros, il y a plus de nuit non plus. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez particulier. Donc moi, je suis resté, par exemple, sur. Il y a différentes manières de faire. Donc il y en a qui changent leurs heures à chaque fois qu'ils avancent. Moi, je suis resté sur l'heure universelle et j'ai pas bougé de ça. Donc en fait, vu que c'était ça qui drivait mes fichiers météo, de toute façon, je me suis dit, je me fixe sur cette heure-là. Et voilà. Et des fois, je me mettais juste des rappels de manger ou de boire, quoi. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est assez étonnant, mais c'est des trucs qu'on peut oublier, quoi. Le sommeil, c'est un bon sujet, ouais. Après, moi, j'ai de la chance, déjà, j'arrive bien à dormir, quand même. Mais en fait, le sommeil, moi, j'étais parti sur un rythme un peu endiablé. Je me suis un peu enflammé. Je partais sur des siestes de 20 minutes au début, donc c'est ce que je faisais en Figaro, etc. Donc je faisais des siestes de 20 minutes, je me réveillais, je checkais, je me rendormais 20 minutes, etc. Donc c'était top par contre dans le rythme de départ, parce que du coup au final j'étais dans le coup assez vite parce que je pense que j'y mettais beaucoup plus d'intensité que certains concurrents. Du coup c'est vrai que je me suis retrouvé aux avant-postes et donc c'était bien, alors que peut-être qu'il y en a beaucoup, je pense, qui étaient un peu sur la défensive au départ, quoi. Puis le départ, c'est une charge émotionnelle importante aussi, donc c'est quand même pas simple de switcher en mode compète. Et donc après, je gérais comme ça mon sommeil au début, et au bout de la première semaine, j'étais complètement cramé. Je me suis endormi, au moment j'ai dormi 6 heures ou 7 heures d'affilée, sans trop m'en rendre compte. Et après, je me suis dit, bon, ok, c'est pas le bon rythme, il faut que tu changes tes méthodes. Et donc après, je me suis un peu réappris moi-même en disant, voilà, là c'est pas un sprint, c'est un tour du monde. Et comment on va gérer ce tour du monde, on va essayer de dormir un peu plus. Donc en fait, dans l'océan Atlantique, avec beaucoup de trafic, je faisais des siestes de plutôt une heure à peu près. Et dans le Grand Sud, j'arrivais jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie, faire des siestes de 2 heures, 2 heures et demie, parce que y a rien, il y a personne, on est peinard. Et donc voilà. Et après, on essaye vraiment de sur une journée, en gros, en moyenne, ça fait entre 4 heures et 6 heures par 24 heures, quoi. Voilà. C'est pas énorme, mais c'est assez impressionnant. Le corps humain s'adapte de manière assez dingue. Hein. Enfin, en gros, moi, à la fin, je pense que ça aurait pu continuer. Mon rythme était calé. C'est juste que j'avais hâte de manger des trucs bons, mais c'est tout. Mais le rythme de sommeil, après, ça dépend. Ouais, c'est les siestes et tout. Ça dépend un peu vraiment chacun déjà. On est tous hyper différents. On est des humains, on est tous différents. Chacun a besoin d'un truc différent, d'un rythme différent. Et ça dépend énormément de la météo. Ouais. C'est-à-dire, des fois, en 48 heures, j'ai dormi que 2 heures parce que, en gros, c'est la tempête. Dès qu'on va se coucher, en fait, on est hyper stressé. Le bateau, il roule mal. On trouve pas les réglages. Donc en fait, des fois, au contraire, j'arrive à dormir 6 heures, 7 heures sur une tranche de 24 heures, quoi. Parce que tout roule, parce que voilà. Et donc, en fait, il faut vraiment trouver ces zones où il faut savoir se faire un peu dur au mal. Et ces zones où il faut savoir aussi laisser glisser, se détendre, bien manger. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on a eu le temps de se préparer sur les rythmes de sommeil, etc. avant ? Alors, probablement que pas mal de mes concurrents ont eu le temps, ouais. Mais y en a beaucoup qui ont fait les analyses cliniques et tout, je pense que c'est hyper intéressant pour apprendre justement ces cycles, etc. On a tous des cycles différents. Nous, on n'a vraiment pas eu le temps, quoi. Nous, on a été dans la priorité, quoi. Et la priorité, c'était pas ça.
Une petite question sur qu'est-ce qui a été le plus difficile, comment vous avez géré le retour sur Terre après 80 jours en solitaire?
Le retour sur Terre, c'est vrai que c'est pas simple, hein, parce qu'en gros on arrive, on est content d'arriver, en même temps on est hyper sollicité, on voit tout le monde, etc. Donc on est dans une espèce de synergie, et d'un seul coup tout s'arrête un peu, et c'est, Et puis en fait, je ne sais pas si c'est vraiment le fait d'avoir passé 3 mois en solitaire ou si c'est le fait d'avoir pendant 2 ans tout donné, donné toute son énergie dans un projet et que pouf, tout s'arrête d'un coup, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était assez dur à gérer. Après, moi, j'ai eu la chance du coup d'avoir la boîte à côté, d'avoir... voilà, exactement. En fait, moi, j'ai juste pas traîné à repartir, à me remettre dedans, à avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées. Enfin, voilà, notre nouveau bateau, on l'a racheté en juin. Avec, il y a eu l'Ocean Race Europe. En gros, voilà, de bouger. En gros, ça m'a permis de faire des trucs et d'aller bien. Mais je discute avec pas mal d'autres skippers, du coup, qui, eux, pour le coup, étaient un peu dans l'incertitude de ce qui allait se passer, de comment... et qui, pour le coup, étaient uniquement des sportifs. Donc, en fait, à la fin de leur truc, ils avaient vraiment un trou quoi, dans leur emploi du temps, leur planning. Et donc, c'est vrai que c'est une période pas simple à gérer, quoi. C'est sûr que c'est particulier comme ambiance, quoi. Voilà, et puis, sans parler de tous les trucs un peu... toutes les remises en question qu'on a eu le temps de faire pendant la course, quoi. Voilà, de se dire, c'est vrai que quand on rentre à terre et qu'on voit dans le monde de consommation dans lequel on vit, alors qu'en gros on a vécu avec rien pendant 3 mois, quoi, mais vraiment rien, quoi. Moi, ce qui m'a le plus choqué en rentrant à la maison, c'était on allume l'eau de la douche et tout, oh, de l'eau qui coule, je peux choisir la température, c'est dingue. alors que voilà, moi j'utilisais en gros 4 litres d'eau par jour, dont 3 litres pour boire, à peine 1 litre. Pour faire les plats lyophilisés, etc. Et après quand il fait chaud, on se douche avec un seau d'eau salée, quoi. Et dans le sud, en gros, j'ai dû me laver qu'une fois, je crois. C'était j'ai dû mélanger 3 litres, non, 2, ouais, 2, 2 litres d'eau bouillante avec 2 litres d'eau froide, et je me suis lavé avec une éponge, quoi. Voilà. Après, on est tout seul, donc ça va, il n'y avait que Flaggy avec moi. Il ne s'est pas plaint, donc...
Est-ce que vous pouvez nous parler des relations avec les autres skippers et les découvertes humaines que vous avez faites ?
Ouais, c'est une excellente question, parce que c'est vrai que de nos jours, il y a une autre dimension qui rentre en jeu, c'est le fait qu'en fait, on est connecté au satellite et qu'en gros, on a WhatsApp à bord. Même si les données coûtent très cher et qu'on ne peut pas regarder des vidéos, etc. Parce que du coup, j'ai fait le tour du monde avec 7 ou 8 gigas, je crois. Donc, tu vois, pour les jeunes que ça représente, aujourd'hui, on a des forfaits avec 80 gigas par mois, quoi. Et donc, moi, j'ai fait le tour du monde avec 7 gigas en comptant que, en gros, 6 des 7 gigas, c'est de l'envoi de vidéos pour la com, les trucs que vous avez vus sur les réseaux sociaux, etc. quoi. Et après, sinon, le reste, c'était uniquement des discussions WhatsApp, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un certain lien qui se crée entre certains skippers, parce que, notamment avec Damien Seguin, que je connaissais à peine avant, et en fait, on s'est retrouvés beaucoup à côté. Et du coup, on s'envoyait un petit message, ouais, comment ça va ? En fait, c'est un petit côté rassurant aussi de se dire, oh, il y a un bateau à côté, c'est cool, discuter avec lui. Et du coup, c'est marrant, on a appris à se connaître comme ça pendant la course. Pareil avec Maxime Sorel. Maxime Sorel, on se connaissait à peine, maintenant on est trop potes, quoi. On va surfer ensemble et tout. C'est assez marrant, ouais, ce lien que ça crée entre les skippers. En fait, on peut se contacter, on peut partager, échanger. Après, bon, il y a toujours, c'est à double tranchant. Il y a aussi le côté, t'as mis quoi comme voile, nanana. Ouais, il croit que je vais lui dire en plus. Et donc, on ne sait jamais trop. Voilà, c'est con, mais on ne sait pas trop, s'il y a de l'intox des fois, s'il y a de l'intérêt, ouais, déjà. Et puis, d'ailleurs, en théorie, dans les règles, on devrait pas échanger sur ce genre de sujet, quoi. Donc, c'est vrai que des fois c'était limite. D'ailleurs, c'est un questionnement par rapport aux règles, parce que il y a certains skippers qui étaient en contact avec leur préparateur mental, par exemple, et il y a un peu de se poser la question, bon, ok, c'est pas un routeur météo, mais quand même il l'aide dans la performance, donc est-ce que voilà, il y a des questions. Du coup, en fait, maintenant qu'on a cette nouvelle technologie, va falloir mettre des règles, quoi. Là il y avait presque pas de règles. Maintenant, il va falloir en mettre. Pareil, quand on échange entre skippers, qu'on se dit, voilà, la météo, c'était le truc, tac, non, en fait, t'es là pour faire ta course aussi. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, voilà, il y a peut-être d'autres points de vue, mais je pense que, voilà, chacun, après, doit prendre ses décisions, etc., quoi. Mais sinon, le skipper qui a créé le groupe WhatsApp des skippers, justement, on était tous ensemble, dans lequel il y avait pas mal de blagues, hein, quand même. C'était principalement orienté sur des blagues. C'était Boris Herman, ouais, qui avait, qui lui, bah lui, il était connecté. Genre, tu lui envoies un message, il t'envoie en 2 minutes, il te répond quoi. Il avait un forfait, je sais plus quoi, et son partenaire, c'était le fournisseur d'accès et tout, donc il était, il était marrant. En fait, Jean, il connaît pas WhatsApp déjà, donc. Non, avec Jean, c'était assez étrange parce que Jean, je l'ai croisé plein de fois. Je l'ai appelé plein de fois à la VHF, il me répondait jamais. Je lui ai envoyé un mail, il m'a jamais répondu. Et donc, je me disais, je comprends pas, soit il me capte pas, soit machin. Et puis surtout que mon équipe me disait à terre, Jean, il arrête pas de faire des éloges de toi, c'est génial et tout. Je dis, bah ouais, je comprends pas, il me répond pas, moi. Je comprends pas, il est. Et donc, du coup, en arrivant à terre, pendant une certaine soirée qui a duré un peu, je me suis permis d'aller poser la question. Lui, pourquoi tu me répondais pas et tout. Et Jean me disait, je pense qu'il est peut-être, il était dans sa course, quoi, dans son truc. Et Damien m'avait déjà dit, parce que j'avais déjà demandé à Damien qui a préparé son bateau avec Jean, donc qui connaît bien Jean. Je lui ai dit, je comprends pas, Jean, il me répond pas et tout. Il me dit, mais tu sais, Jean, quand il est dans son truc, dans sa course, des fois, faut pas chercher quoi. Et donc, je lui ai demandé, il m'a dit, ouais, tu sais, j'avais mon fond de coque qui commençait à se délaminer, et puis je voulais pas te le dire, et du coup, je préférais pas te parler que te mentir et tout. Et donc, quand même étonnant. Et puis il me disait, ouais, puis quand même, ça m'agaçait un peu que tu sois là. Donc, très sympa. Du coup, je suis, franchement, très bonne connaissance du coup d'après Vendée Globe, où je suis encore invité à aller boire un coup de rouge chez lui à Concarneau, mais j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore. Mais du coup, quand j'irai faire mon stage à Port-Lave, je pense que il y a moyen de passer une soirée animée assez sympa avec ces mecs-là. Ils sont assez incroyables. Hein, c'est des forces de la nature. Hein, ils ont, Jean, il est quand même pas tout jeune. Je sais ce que c'est que de gérer un IOCA en solitaire et c'est des mecs qui ont apporté énormément dans le milieu, énormément, que ce soit technologiquement. C'est des gens qui ont des points de vue hyper intéressants, et c'est toujours intéressant de discuter avec eux. Et voilà, même si je ne suis pas d'accord forcément avec ce qu'il dit, quoi, en tout cas, c'est intéressant. Quoi.
On va prendre juste les 2 dernières questions, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a eu des avaries pendant le Vendée Globe ?
Alors oui, il y a eu pas mal d'avaries. Il y a eu forcément du gros temps et le bateau qui s'est brisé en deux était probablement un peu trop fragile pour aller s'affronter aux mers du Sud, parce que c'était pas non plus la cata hein, cette période-là. Pendant le Vendée Globe, j'ai eu bien pire que ces conditions-là. Mais oui, il y a des avaries. En fait, je confirme la règle que Michel Desjoyeux, j'avais entendu dire ça déjà, je sais plus en quelle année, quand il avait gagné, il disait en gros le Vendée Globe c'est une emmerde par jour. Et c'est pas faux en fait. Il faut savoir que le bateau, on est en pleine mer avec des creux, du sel, de l'eau. C'est hyper humide à bord. Donc en fait, tout ce qui est électronique déjà, c'est quand même soumis à rude épreuve. Tous nos systèmes de winch, tous les systèmes mécaniques, ça tourne en continu tous les jours, tout le temps, et au rythme des vagues, etc. Donc en fait, il faut s'organiser des petites routines. Hein. Moi, j'avais ma petite routine toutes les semaines, tous les 2 jours, j'avais une mini routine. Toutes les semaines, j'avais une grosse routine où je faisais vraiment tout le tour du bateau avec ma lampe frontale. J'allais jusque dans la crash box à l'avant, dans les poubelles, pour aller vérifier la structure du bateau. On va jusqu'au vérin de pilote à l'arrière qu'il faut graisser. J'ai dû faire 3 graissages avec le démontage des vérins, remise en place, changer les courroies. Après en électronique, forcément du coup il y a des moments où ça bug parce que c'est dans l'humidité, etc. Donc y a quand même pas mal de petites emmerdes à gérer. Moi, mes 2 grosses emmerdes qui ont été vraiment chiantes, c'était mon moteur en fait, parce que du coup à bord du bateau on a un moteur qui sert de génératrice tout simplement, c'est pour charger les batteries quoi. Et moi j'avais 2 moyens de charge, donc j'avais ce moteur et j'avais des hydrogénérateurs, donc qui sont des petites éoliennes qui sont dans l'eau et qui permettent de charger les batteries. Et donc, quand mon moteur est tombé en rade, en plus les mécaniques c'est vraiment pas le truc qui me... Je suis vraiment nul là-dedans. C'était avant de rentrer dans les mers du Sud et j'étais en stress complet parce que en gros mon seul moyen de charge de batterie après c'était... c'était les hydrogénérateurs, quoi. Et plus de batterie, ça veut dire plus de désalinisateur, donc plus d'eau, plus de cartographie, plus de pilote automatique, et ainsi de suite, quoi. Donc, en gros, c'était quand même sujet, quoi. Et donc du coup, j'ai bichonné mes hydrogénérateurs jusqu'à la fin, en démontant le système hydraulique, voilà, tous les 2-3 jours, bien vérifier les niveaux d'huile, les trucs. Voilà. Et sinon, le deuxième gros savari que j'ai eu, qui m'a valu l'opportunité de monter au mât, c'était une voile d'avant qui s'est déchirée en deux. Et du coup, la partie haute est restée en tête de mât. Et du coup, il a fallu monter pour aller descendre cette partie haute. Et c'était une voile hyper importante, en fait, avec laquelle j'aurais pu vraiment perdre beaucoup de place. Déjà, elle m'a fait perdre quand même pas mal de temps, parce que je l'ai pas eu pendant quasiment du coup une semaine et demie, parce qu'il a fallu que je la répare. Cette voile-là, elle a été indispensable. Si je l'avais pas eu sur la remontée, je me serais probablement fait doubler par Maxime, par Armel. Et donc voilà, il a fallu monter en tête de mât, et au moment où je suis monté, c'est vrai qu'il y avait un bon 1,50 m de creux, et c'était tendu, quoi. C'était tendu. Et donc, c'était un petit moment un peu stressant. Mais la deuxième fois, c'était très cool, hein. Deuxième fois, j'ai pu choisir quand je suis monté à remettre la voile, donc c'était tout plat, c'était hyper joli, c'était très sympa. Il y a des dauphins et tout, c'était parfait. Est-ce que je m'imagine skipper dans 30 ans à l'âge de Jean Le Cam? C'est irréel. Franchement, j'ai pas idée. Après, tout ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de faire le Vendée Globe toute ma vie. Moi, ce qui me motive, c'est les nouveaux projets, etc., quoi. Et je pense que là, j'ai envie de le. Là, je l'ai fait pour la découverte. J'aimerais bien le faire maintenant pour la performance. Probablement pas le gagner cette fois-là parce que on n'aura probablement pas non plus le meilleur bateau, etc., même si on a un bateau bien mieux qu'avant. Mais pourquoi pas essayer de gagner l'édition d'après, quoi, sur la base de la construction d'un bateau, etc. Mais après, faire ça tout le temps, je suis pas sûr. Voilà. Par contre, d'aller faire d'autres courses comme Ocean Race, voilà, découvrir d'autres courses, etc., ça, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup m'attirer. Voilà.
Voilà. Bon.
Waouh, waouh.
Voilà, je vous remercie, nous vous remercions pour votre présence, nous vous remercions bien sûr Benjamin, qui va vous dire un dernier petit mot.
Ouais, un grand grand merci, hein, du coup, d'être vraiment venu, ça me touche beaucoup, puis de faire ça ici là, enfin, je trouve que le cadre est génial, déjà c'est une super idée de faire ça là, enfin, ouais, je trouve ça vraiment très sympa de faire ça ici, et vraiment un grand merci de m'avoir invité, et un grand merci à tous d'être venus, ça me fait chaud au cœur.